Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, visiteurs. Eh bien, nous sommes pile le 25 décembre aujourd'hui. Et si vous regardez le calendrier, c'est écrit Noël. Et il y a quelques semaines qu'on parle déjà de ça, des illuminations de Noël, de l'arbre de Noël. Les enfants se rappellent de ce jour parce qu'il y a les cadeaux de Noël aussi, le sapin de Noël. Et c'est une occasion aujourd'hui pour tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, de découvrir ou redécouvrir la vérité sur celui qu'on appelle l'enfant Jésus. Voilà. Les hommes fêtent l'enfant Jésus, ils parlent de Noël, mais il y a une réalité biblique derrière tout ça, et c'est pour nous l'occasion de plonger les regards dans la parole. Nous l'avons déjà fait par plusieurs passages de l'évangile selon Matthieu. Voilà, et ce matin, j'aimerais que nous regardions encore cela dans la parole de Dieu. Mais qui est cet enfant Jésus? Et je ne vais pas... Le passage de ce matin ne va pas commencer par la crèche, les anges et les bergers, mais nous allons commencer ce passage, c'est une généalogie. Et notre frère a pris une portion de l'évangile selon Matthieu, je vous invite à prendre avec moi, l'évangile selon Matthieu au chapitre 1. Évangile selon Matthieu au chapitre 1 à partir du verset 1. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérets et Zara, Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Éliud, Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et notre frère a déjà lu des versets 18 jusqu'à la fin de ce chapitre. Les généalogies n'aiment pas ça. À chaque fois que ça apparaît dans la Bible, on a envie de sauter et passer à autre chose, parce qu'il y a des noms difficiles à prononcer, des noms qui ne sont pas de notre génération, et on ne comprend pas toujours pourquoi ça arrive là, comme ça. Mais c'est dans la parole de Dieu, et il y a des richesses dans cette généalogie. La généalogie de Jésus-Christ est vraiment étonnante. Et pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut se rappeler, il faut avoir à l'esprit la chose suivante. Le personnage central des prophéties de l'Ancien Testament est le grand roi qui régnera sur le royaume promis par Dieu. Ce grand roi détient la justice, la sagesse, le pouvoir, l'autorité, et a le droit de régner non seulement sur Israël, mais sur la terre entière. Il écrasera la tête de Satan. Il rétablira la domination que l'homme a perdue à cause du péché. Et il établira sur la terre un royaume qui durera éternellement. Nous lisons dans Genèse 49, chapitre 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Aucun des rois de l'Ancien Testament n'a eu un règne éternel. Les prophètes déclarent aussi que le grand roi est à la fois humain et divin. Les évangiles nous éclairent sur l'identité de ce roi. Il montre par une succession d'événements que Jésus est le seul qui remplit toutes les exigences des prophéties. Le Nouveau Testament dans son ensemble reconnaît en Jésus le grand roi promis. Le thème royaume est utilisé plusieurs fois, une centaine de fois, pour désigner le royaume de Jésus-Christ. Et chaque évangile brosse un portrait différent de Jésus-Christ. Matthieu présente Jésus comme le souverain, alors que Marc le présente comme le serviteur. Luc le présente comme le fils de l'homme, tandis que Jean le présente comme le fils de Dieu. Le même Jésus est présenté à la fois comme Dieu souverain et homme serviteur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La généalogie de Jésus-Christ devait prouver aux Juifs que Jésus était le Messie et le roi qui accomplirait tout ce que les prophètes avaient prédit. La première phrase de Matthieu résume parfaitement, pratiquement, l'enseignement de l'Ancien Testament concernant celui qui devait venir pour régner sur Israël. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dieu avait promis à ces deux hommes un successeur exceptionnel. Dieu avait promis d'abord à David un successeur qui régnerait éternellement sur son trône avec justice et équité, amenant la paix à la nation juive. Dieu avait promis à Abraham une postérité qui apporterait la bénédiction universelle. Jésus-Christ est la descendance promise, la réalisation de tous les espoirs de ceux qui sondaient les Écritures. Et on peut se réjouir aussi aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est né. Il est venu pour nous. La généalogie que donne Matthieu nous indique bien plus que la lignée de Jésus-Christ. Elle est plus qu'une simple liste de noms anciens, difficiles à prononcer, qui nous semblent sans intérêt. Elle est aussi une belle illustration de la grâce de Dieu. La généalogie de Jésus-Christ est vraiment étonnante. La grâce de Dieu hybride du début jusqu'à la fin. Premièrement, et nous le verrons ce matin, la grâce de Dieu brille par la présence inattendue de 5 noms de femmes. Deuxièmement, la grâce de Dieu brille par la fidélité de l'Éternel à accomplir ses promesses malgré le péché des hommes. Troisièmement, la grâce de Dieu brille par le repos sans égal que nous avons en Jésus-Christ. Regardons donc ces trois points ce matin. Et tout d'abord, pour voir combien la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Jésus-Christ par la présence inattendue de 5 noms de femmes, il nous faut considérer le contexte culturel dans lequel Matthieu vit et écrit. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est plutôt individuelle. Chacun se met en évidence, chacun se met en valeur par ses diplômes, ses actions, son rang social, son expérience professionnelle. Mais à l'époque de Matthieu, la société était plus collective, elle était plutôt fondée sur la famille. Matthieu, chapitre 1, est une généalogie, mais c'est aussi un curriculum vitae. À l'époque de Matthieu, tous ceux auxquels vous êtes reliés, c'est en quelque sorte votre curriculum vitae. Votre famille constitue votre curriculum vitae. Votre ascendance constitue votre curriculum vitae. Votre tribu constitue votre curriculum vitae. Ainsi, cette généalogie était une façon de dire, et la généalogie selon le curriculum vitae était une façon de dire « voici ce que je suis ». Nous connaissons le curriculum vitae quand nous devons nous chercher un emploi. On met des belles choses qu'on a faites, on essaie de se mettre en valeur. Eh bien, aussi à cette époque, l'objectif d'un CV, je dirais, sous forme de généalogie, était une façon aussi de se mettre en valeur, d'impressionner les gens par la grande qualité et la respectabilité de nos ascendants, de nos ancêtres. Et à l'époque comme aujourd'hui, les gens retouchaient leur CV pour laisser les meilleures choses, pour garder que ceux qui les mettaient en valeur. On sait qu'Hérode le Grand, Hérode Ier, a éliminé certains noms de sa généalogie parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait des liens de parenté avec certaines personnes qui ternissaient sa généalogie. Alors on peut se demander, est-ce que Matthieu va faire la même chose? Est-ce qu'il a fait la même chose avec la généalogie du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il va chercher à impressionner les gens? Est-ce qu'il va essayer de nous impressionner par la grande qualité de l'ascendance de Christ? Eh bien, quand on regarde de près cette généalogie, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Il fait tout le contraire de ce que faisaient les gens à l'époque et ce qu'on peut faire même aujourd'hui. La généalogie de Jésus-Christ est complètement différente des généalogies de l'époque, et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, Matthieu mentionne 5 femmes, vous l'avez vu avec moi, au verset 3, verset 5, verset 6, verset 16. Il s'agit de Tamar, de Rahab, de Ruth, de la femme d'Uri et de Marie. Cela ne nous surprend pas aujourd'hui qu'il y ait des femmes dans une généalogie. Mais à l'époque, on ne mentionnait pas les femmes dans les généalogies. Dans ces sociétés anciennes patriarcales, on ne citait pas les femmes. Et surtout pas 5 à la fois. Dans ces cultures, les femmes étaient le sexe exclu. Eh bien, vous voyez qu'elles sont pourtant mentionnées dans la généalogie du Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Deuxièmement, quand on regarde de plus près l'origine de ces femmes, on voit qu'elles n'étaient pas juives. Vous voyez, il n'est même pas mentionné, on aurait aimé voir Sarah, Rebecca, Léa, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Matthieu a préféré parler de Rahab, de Ruth, de la femme d'Uri et de Marie. Et Marie elle-même va reconnaître qu'elle a besoin d'un sauveur dans son cantique, dans Luc chapitre 1, verset 46 à 48. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Voyez. Et ces femmes donc, Tamar, Genèse 38, Rahab, Josué chapitre 2, Ruth chapitre 4, verset 13 et suivant, sont cananéennes ou moabites. Et on sait par la parole de Dieu que ces peuples, les cananéens, étaient des peuples impurs aux yeux des anciens hébreux. Il leur était interdit de pénétrer dans le tabernacle ou dans le temple. Vous lirez ça dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, ou dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. Ces peuples faisaient partie des peuples exclus. Et pourtant, on voit que ces 3 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Christ. Troisièmement, en donnant le nom de ces femmes, il n'a pas dit qu'il y a 5 femmes, il a mentionné les noms. Matthieu rappelle au lecteur que nous sommes certains épisodes troublants, certains épisodes sordides et même immoraux de la Bible. On nous a dit au verset 3, Judas engendra de Tamar, Pérets et Zara. Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Si vous allez regarder dans la Genèse, l'histoire de Tamar, eh bien vous voyez que c'est pas glorieux. Jésus est un descendant de Pérets et pas de Zara. Pourtant les deux sont mentionnés, ainsi que Judas et Tamar, parce que Matthieu veut que nous nous rappelions bien l'inceste qui a eu lieu entre Judas et Tamar. Voilà, Judas avait promis un de ses fils à Tamar, ça n'a pas été fait, donc elle s'est déguisée en prostituée. Ils ont eu des relations incestueuses. Judas a eu des relations avec sa belle-fille Tamar et est né les deux jumeaux Pérets et Sarah. La Bible condamne l'inceste, c'est contraire à la loi de Dieu. Mais on voit malgré tout que c'est noté là, et on peut dire que la famille, le Messie vient d'une famille dysfonctionnelle. Au verset 5 aussi, nous est parlé de Rahab. Rahab était une cananéenne. Et dans Josué chapitre 2, on voit que Rahab était une prostituée. C'était sa profession. Et pourtant, vous voyez, elle apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Au verset 6, il nous est fait mention de David. Et on dit, ah là là, voilà la crème de la crème. Voilà celui qui va rehausser cette généalogie. Voilà l'illustre ancêtre que tout le monde rêve d'avoir dans sa généalogie. Eh bien, Matthieu va poursuivre en écrivant « Le roi David engendra Tamar » verset 6. Pardon, « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri ». Pourquoi il ne dit pas tout simplement « Le roi David engendra Salomon de Bathsheba » Pourquoi il ne dit pas ça? Eh bien, Matthieu veut que nous nous souvenions d'un événement tragique de l'histoire d'Israël. Quand on regarde 2 Samuel chapitre 23, en particulier le verset 39, ou un passage parallèle, 1 Chronique chapitre 11, verset 10 à 41, verset 41, il nous est parlé des vaillants hommes de David. David, à ce moment-là, était en fuite. Il cherchait à échapper à Saül. Et un groupe d'hommes, qu'on appelle les vaillants hommes de David, vont l'accompagner, vont le défendre au péril de leur vie. Et vous savez qui fait partie de ces vaillants hommes de David? Uri. Uri fait partie de ces vaillants hommes de David à qui David doit la vie. 2 Samuel chapitre 23, par exemple, ou 1 Chronique chapitre 11. Pourtant, quelques années plus tard, quand David va accéder au trône, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire assassiner Uri, le mari de Bathsheba, parce qu'il avait été, il avait séduit Bathsheba, il avait couché avec elle, et elle va tomber enceinte. Et Salomon sera le deuxième fils de Bathsheba et de David. Donc, Matthieu ne mentionne pas Bathsheba dans la généalogie, mais il dit plutôt, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Il veut que notre attention se porte sur David et sur ses mauvaises actions, ce qu'il a fait, qui n'était vraiment pas louable pour celui qui allait être le roi David. Alors, on trouve donc dans la généalogie de Jésus-Christ, non pas des personnages glorieux comme on l'attendait à cette époque, mais des personnages moralement douteux, à cause de l'adultère, de l'inceste, de la prostitution. On souligne même que les ancêtres les plus prestigieux, par exemple Judas et David, sont des hommes qui étaient faibles, moralement faibles. On y trouve aussi des exclus de diverses sortes. Ils sont exclus à cause de leur sexe, les femmes par exemple, exclus à cause de leur race, des Cananéens, exclus à cause de leur culture différente. La loi de Moïse excluait, éloignait, ôtait ce genre de personnes de la présence de Dieu. Pourtant, elles sont mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ. Que nous faut-il donc en conclure? Que devons-nous retenir de cette généalogie? Qu'est-ce que ça nous apprend? Pourquoi Matthieu a noté ça alors qu'il aurait pu les enlever? Eh bien, ça nous dit tout d'abord que tous ceux qui sont exclus pour diverses raisons, même ceux qui sont exclus par la loi de Dieu, peuvent faire partie de la famille de Jésus. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, si vous repentez et si vous croyez en Jésus-Christ, sa grâce couvre votre péché et vous unit à lui. Vous faites partie de sa famille. Aussi sale que vous puissiez être moralement, vous deviendrez blanc comme de la neige, comme nous dit Ésaïe chapitre 1, verset 18, ou Ésaïe 53, verset 5 à 6. Deuxièmement, quand on considère le roi David, on voit qu'il avait un beau pédigré. Il avait tous les attributs du pouvoir à cette époque. Il était un homme et pas une femme. Il était juif et non pas païen. Et lui, il était roi et non pas un pauvre homme. Pourtant, Matthieu nous montre que c'est par la grâce seule que David est présent dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est par la grâce seule qu'il fait partie de la famille de Jésus. Tous ceux qui sont mentionnés dans la généalogie de Jésus, d'ailleurs, le sont par la grâce seule de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, tous ceux qui sont là ont besoin de la grâce de Dieu. Tous peuvent recevoir la grâce de Dieu, même le plus mauvais des êtres humains. Finalement, la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La condition est donc de se repentir et de croire en ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et nous lisons dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Les personnes donc que Dieu a choisies pour être ses ancêtres, qui sont nommées là précisément, révèlent la grandeur de la grâce et nous donnent de l'espoir à nous qui sommes pécheurs, nous donnent de l'espoir à tous les pécheurs. Voilà donc une première façon dont la grâce de Dieu brille au travers de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a une deuxième façon avec laquelle la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Jésus-Christ. La grâce de Dieu brille par la fidélité de l'Éternel à accomplir ses promesses en dépit des péchés des hommes. Alors, nous lisons au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça nous dit déjà le temps qui s'écoule. On nous a parlé d'Abraham tout au début, de David un peu plus tard. Et quand on lit, on parle de la déportation, on parle de 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il y a du temps qui s'est écoulé avant que le Seigneur Jésus n'arrive. En Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu a dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et même avant Abraham, Dieu avait promis en Genèse chapitre 3, verset 15, « que quelqu'un écraserait la tête de Satan et vaincrait le mal. Il a fallu attendre des siècles, des millénaires même, avant que l'ange ne rende visite à Marie au sujet de l'enfant qu'elle porte et qu'elle loue le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Dans Luc chapitre 1, au verset 54 à 57, nous lisons « Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa progéniture, sa prospérité pour toujours. » Donc Luc juste à côté, hein. Luc chapitre 1, verset 54 à 55. Voilà, il s'est souvenu de sa miséricorde. Du temps s'est écoulé, beaucoup de temps. Il nous est parlé comme il avait dit à nos pères, donc c'est quelque chose qui date, envers Abraham et sa postérité pour toujours. 400 ans, 400 ans avant la naissance de Christ, aucun prophète n'a été envoyé à Israël. C'était comme si Dieu avait oublié. Est-ce qu'il serait passé quelque chose? Il a oublié vraiment? Quelqu'un viendrait? Le Messie viendrait vraiment? Eh bien, nous le voyons arriver. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Le Messie est finalement venu. Dieu, mes amis, frères et sœurs, Dieu n'est pas assujetti à notre calendrier. On aimerait que les choses se fassent quand on veut, qu'il vienne maintenant, qu'il agisse maintenant. Et Dieu semble plutôt lent à agir, mais il tient toujours ses promesses. Et lorsqu'elles se réalisent, elles vont bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous a dit « Il y aura celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. » Dans notre génération aujourd'hui, dans celle du passé, dans toutes les générations au ciel. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons dans la prière ou nous pensons. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et on le voit là, ça a pris du temps. Et vous voyez, après 400 ans de silence, qu'est-ce que Dieu envoie? Une généalogie, mais combien elle est riche pour nous. Eh bien, on peut voir ça aussi à peu près dans toute la Bible, mais je vais prendre quelques exemples. Vous vous rappelez de Joseph. Joseph, pendant des années, il a semblé que Dieu avait oublié ses prières. Il semblait abandonné, passant d'une difficulté à une autre. Il avait été déjà vendu par ses frères, mis en prison. Il avait interprété les rêves de deux serviteurs de Pharaon. Il avait été oublié dans la prison. Eh bien, il semblait abandonné, passant de difficulté à difficulté. Mais toutes ces choses, nous dit la Bible, sont arrivées pour sauver un plus grand nombre de personnes, un grand nombre de personnes. Et vous connaissez bien sûr Genèse 45, verset 5 à 8, mais Genèse 50, 20, nous pouvons lire. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est ce qu'il disait à ses frères lorsque ses frères l'ont reconnu, quand ils sont venus chercher des victuailles en Égypte. On voit ça aussi dans les évangiles, dans Marc chapitre 5, verset 21 à 43, avec la fille de Jairus et cette femme atteinte d'une perte de sang. Alors Jairus était le chef de la synagogue. Alors Jésus a été appelé pour guérir cette petite fille qui était à l'article de la mort. Et en chemin, on voit que Jésus s'arrête pour s'occuper de cette femme, de quelqu'un d'autre, de cette femme qui avait des pertes de sang. Et finalement, il attendait tellement que la jeune fille de Jairus, est décédée. On pourrait dire, mais le Seigneur avait de mauvaises priorités quand on lit le texte. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il a tardé? Voilà, il n'y a plus d'espoir pour cette jeune fille. On l'a pourtant demandé. Et rappelez-vous-même, dans l'évangile de Jean, les Marie et Lazare qui ont fait appeler Jésus parce que leur frère était malade. Il a tardé. Et Lazare a eu le temps de mourir aussi. On pourrait dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Et on peut dire qu'il est arrivé en retard. Mais les priorités de Jésus ne sont pas les nôtres. Les priorités de Jésus nous semblent mauvaises jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles ne l'étaient pas. Quand on lit plus loin les versets bibliques, on se rend compte que Dieu avait des choses bien plus grandes que nous pensions, bien plus grandes. La grâce de Dieu n'est pas assujettie, frères et sœurs, chers amis, à notre calendrier. Elle ne respecte pas nos échéances. La fille de Jairus était déjà morte quand il est arrivé chez lui, avec Jésus, c'était dramatique. Il a dit, c'est plus la peine, elle est morte. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ne crains point, quoi seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Eh bien, bien souvent, on a l'impression que Dieu oublie ses promesses, qu'il va rien se passer. Mais en réalité, il les accomplit d'une manière que nous n'aurions pas imaginée. Quand on considère la venue du Messie, le roi divin, notre logique voudrait qu'il naisse dans un palais. C'est un roi, il fallait qu'il naisse dans un palais, mais la parole de Dieu nous montre, et la volonté de Dieu est qu'il naisse dans une étable, dans la fragilité, dans la faiblesse d'un corps humain, pour finalement mourir sur une croix. Ça, c'est un roi, c'est un Messie qui va délivrer quelqu'un. Dans notre façon de penser, c'est pas logique, ça. Il va rien se passer de glorieux. Eh bien, c'est de cette manière, frères et sœurs, qu'il a pu sauver parfaitement les pécheurs que nous sommes. Et c'est pourquoi ce matin nous pouvons le louer d'une façon extraordinaire, parce que Dieu agit d'une façon qui nous épate, qui nous dépasse. Alors on revient au verset 2 et on peut lire: Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob engendra Judas et ses frères. Comment est-ce que Judas est devenu le fils de Jacob? Eh bien, quand on lit l'histoire de Jacob dans la Genèse, on voit que c'est arrivé après une vie de désordre et de péché. Jacob a menti à son père pour voler la bénédiction d'Ésaü. Et à cause de ça, il y a eu de terribles conséquences pour lui-même et pour toute sa famille. Quand on lit l'histoire de Jacob, c'est un roublard. Et une bonne partie de sa vie a été de jongler avec ça, de tromper. Voilà. Jacob engendra Judas et ses frères. Et pourtant, à la suite de tous ces épisodes désastreux, après cela qu'il va rencontrer sa femme, Léa, qui va être la maman de Judas. Ce que Jacob a fait était mal. Et il a payé dans la souffrance une bonne partie de sa vie. Cependant, Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut faire de mal. Et on voit que Dieu a tiré parti des mauvaises actions de Jacob, pour réaliser sa promesse. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il accomplit toutes choses à la perfection. Dieu tient toutes ses promesses. La généalogie de Christ le prouve, n'est-ce pas? La naissance de Jésus le prouve. Quand on voit toutes ces personnes qui sont là, toutes ces histoires un peu... qui ont beaucoup de travers, eh bien, Dieu est fait des belles choses. Matthieu chapitre 1, verset 22, on peut lire, Matthieu chapitre 1, verset 22, il nous a dit: « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Pour que Dieu soit avec nous, il a fallu des hommes pécheurs. Et malgré beaucoup de péchés, Dieu a accompli parfaitement sa volonté. Dieu a parfaitement accompli ce qu'il avait promis. Enfin, il existe une troisième façon avec laquelle la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Christ. La grâce de Dieu brille par le repos sans égal que nous trouvons en Jésus-Christ. Et c'est le verset 17 qui nous montre ça. Alors on peut lire au verset 17: il y a en tout, Matthieu précise, trois époques de l'histoire d'Israël. Il commence en disant: il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Abraham, vous vous rappelez, il a parcouru tout le pays de Canaan. C'est une période de déplacement. Après, on nous parle de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. On nous parle aussi de la grande délivrance que Dieu accomplit envers ce peuple. Après, Matthieu ajoute 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. C'est la période de la monarchie, une période de déclin, une période d'apostasie, et qui va se terminer tragiquement par la destruction de Jérusalem et de son temple. Et Matthieu finit en disant: et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ça fait du temps qu'il s'écoule. Et cette déportation à Babylone, c'est la période de captivité, une période d'exil, de frustration, de stagnation. On a donc trois fois 14 générations dans la généalogie de Jésus-Christ. Et ces 3 fois 14 générations nous montrent que La généalogie de Christ est un mélange de gloire, un mélange d'obscurité. Israël s'élève, retombe, stagne et finalement rejette et crucifie le Messie que Dieu lui-même lui a envoyé. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 fois 14 générations ? 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 3 fois 14, on pourrait aussi dire 6 fois 7. Et si on appelle un groupe de 7 une septaine, on voit là qu'il s'est écoulé 6 septaines jusqu'à Christ, et Jésus-Christ se trouve donc au début de la 7e septaine. Qu'évoque pour nous le chiffre 7 ? Qu'évoque à quoi cela se réfère dans la Bible, le chiffre 7 ? À quoi associe-t-on dans la Bible le chiffre 7 ? Eh bien, on trouve au moins 3 situations dans lesquelles sont associés le chiffre 7, et c'est toujours l'idée du repos qui domine dans ces 3 situations. On peut se rappeler dans Genèse chapitre 2 que Dieu a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, et puis qu'il s'est reposé, il a achevé la création en 7 jours. Il s'est reposé le 7e jour, le jour du sabbat, un jour du repos. Voilà déjà un lien avec le chiffre 7. Une deuxième référence aussi, le chiffre 7 a aussi une signification par rapport à la terre, donc une signification par rapport à Dieu qui s'est reposé le 7e jour, une signification aussi par rapport à la terre dans la loi de Moïse. Tous les 7 ans, un fermier devait laisser sa terre se reposer pour se régénérer, ce qu'on appelle aujourd'hui la jachère, pour que les nutriments se refassent dans le sol. L'idée de repos toujours associée au chiffre 7. Et puis, une troisième référence au chiffre 7, il y a une signification par rapport aux hommes et à la terre dans Lévitique chapitre 25. Nous apprenons que la dernière année d'une série de 7 périodes de 7 ans, soit la 49e année, c'est la période du jubilé. Alors, durant l'année du jubilé, c'est une période de repos. Repos pour les esclaves. Tous les esclaves doivent être libérés. Repos aussi pour les dettes. Toutes les dettes doivent être remises. Repos aussi pour la terre et leurs habitants. Toutes les terres et leurs habitants doivent se reposer de leur tracas et de leur fardeau. Donc, la 7e septaine, et là se trouve notre Seigneur Jésus, le sabbat des sabbats, est un avant-goût du repos ultime dans lequel nous entrons lorsque Dieu aura libéré la création. Voilà. Le Seigneur Jésus, cette venue nous rappelle le repos qu'on aura en lui. On l'a déjà en lui parfaitement, mais on l'aura pleinement quand le Seigneur reviendra et que nous serons avec lui. Et comment dès maintenant, trouver le repos? Comment profiter du repos? D'où vient, on peut se demander, le vrai repos? Eh bien, on peut lire dans Matthieu chapitre 11, tournez avec moi. D'où vient le vrai repos? Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, on voit que le vrai repos ne peut venir que de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même nous dit, c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, le vrai repos se trouve seulement en Jésus-Christ. Pas dans nos activités, pas dans nos réalisations personnelles, pas dans l'argent, pas dans le bonheur des choses terrestres, mais dans le Seigneur, dans ce repos que lui seul peut donner. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut déjà reconnaître que nous sommes chargés de nos péchés, sous le coup de la colère de Dieu, pour venir à Christ et nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Que notre vie soit un échec, que notre vie soit un succès, que vous soyez un brigand ou un roi, la grâce de Dieu est nécessaire et suffisante pour que vous connaissiez le repos. C'est la Bible qui nous le dit. La grâce de Dieu est offerte indépendamment de nos défaillances ou de nos performances. Car c'est par la grâce, nous Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est ne point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et si nous sommes déjà chrétiens, si nous sommes déjà réconciliés avec Dieu, nous avons aussi besoin du repos du Seigneur tous les jours de notre vie. Parce que vous savez, Nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. On a beau essayer de faire que les choses aillent bien, on ne peut pas tout contrôler. Les épreuves arrivent, les choses imprévues arrivent. Malgré le fait qu'on essaie de tout faire pour bien faire et des fois, on ne sait pas ce qu'il faut. Eh bien, nous avons ce repos aussi en Jésus-Christ, nous qui sommes déjà enfants de Dieu. La généalogie nous montre, la généalogie de Christ que nous avons lue ce matin, nous montre que la grâce de Dieu brille de mille éclats et qu'en dépit des apparences, Dieu contrôle tous les événements. Notre paix intérieure vient du fait que l'Esprit Saint nous rappelle la promesse de ce salut définitif et de ce repos ultime que nous avons en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit aussi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est bien en lui que nous avons le repos. Donc cette généalogie de Jésus-Christ, un tel engendra un tel, engendra un tel, c'est plutôt une manifestation de la grâce de Dieu qui se répète envers des pécheurs qui n'héritent que la colère de Dieu. La généalogie de Jésus-Christ est un témoignage de la grâce de Dieu, un témoignage du ministère de son Fils, l'ami des pécheurs, qui n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu chapitre 9, verset 13. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver par sa seule grâce. Oui, nous pouvons remercier le Seigneur que le Sauveur est.